our 12 points go to...
Our 12 points.
The 12 points.
The 12 points.
Nos 12 points.
12 points.
Go to...
Go to...
Go, go to...
Malta.
Estonia.
Iceland.
Ukraine.
España.
Italy.
United Kingdom.
Austria.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte
l'Eurovision.
Aujourd'hui, autour de la table, je retrouve mes acolytes de toujours, à commencer par Agathe. Salut Agathe, comment
tu vas? Moi, je suis pas une acolyte de toujours, je suis une acolyte plutôt récente, mais je suis ravie d'être là.
Merci, c'est toujours un plaisir. Et Quentin, salut, comment vas-tu?
Salut Thomas, moi j'avais mon rond de serviette au début.
je suis d'origine. La saison 1, exactement. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de la mode à l'Eurovision et c'est un sujet que je souhaitais traiter dans le podcast depuis très longtemps.
C'est vrai que ça fait des mois que tu nous saoules avec ça. Des mois. Hein.
Oui, alors ça va être un peu compliqué de parler de mode en podcast et d'essayer de décrire les tenues, mais je compte y arriver car nous sommes accompagnés aujourd'hui de deux personnes autour de la table. Mathieu Baudardelière, bonjour.
Salut, salut.
Mathieu, tu es journaliste chez Elle, spécialiste de la mode, et on te retrouve également sur ton compte Instagram où tu fais de nombreux décryptages de la mode.
J'en fais pas mal, ouais, ça m'occupe bien mes journées, donc n'hésitez pas à me suivre vraiment.
Et puis nous avons également la chance d'avoir avec nous Romain Thévenin, créateur et styliste autour de la table, qui a fait un nombre incalculable de tenues pour un nombre incalculable de personnalités, dont la Zara à l'Eurovision 2022.
Exactement.
2023.
C'était cette année.
2023.
Enfin, l'année dernière.
Comment tu vas, Romain?
Très bien, très bien. C'est la première fois que je fais un podcast, donc c'est un peu particulier, mais c'est très cool pour pouvoir essayer de parler un peu de tout ce qui concerne la mode autour de l'Eurovision, donc c'est trop cool.
Ah bah écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir parmi nous.
J'ai eu très peur.
Moi aussi. Je ne mange pas de ce pain là.
Donc aujourd'hui, on va parler de la mode sous différents angles à travers l'Eurovision. Est-ce qu'il existe une mode Eurovision? Quels sont les différents styles marquants qu'on a pu voir? Et puis comprendre aussi en coulisses comment ça se passe quand on est créateur et qu'on propose du coup ses talents pour un artiste ou une artiste présente dans la compétition. Les amis, je vous propose de commencer tout de suite.
Oui.
Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec toi, Romain, parce que c'est une chance pour nous d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur une tenue d'un artiste à l'Eurovision. Et une des premières questions qui me vient en tête, et ça rejoint peut-être aussi toutes les tenues pour les gens qui font de la scène ou du spectacle sur lesquels tu as pu travailler, j'imagine qu'on ne crée pas une tenue de scène comme on crée une tenue pour un défilé ou une tenue de haute couture, parce qu'il doit y avoir des soucis peut-être techniques de respiration à travailler. Comment on fait?
Effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de contraintes, que ce soit technique, au niveau de la lumière, au niveau du son, que ça ne fasse pas de bruit par rapport au micro. Il y a toujours des petites pochettes à faire en relation avec le tissu qui viennent derrière pour les centrales de micro, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, les micros.
Il
faut respecter l'envie de l'artiste, il faut respecter aussi l'envie de ceux qui gèrent l'Eurovision, enfin, comment s'appelle-t-il ?
France Télé,
voilà, France Télé, la délégation, exactement. Il faut faire attention aussi à eux, ce qu'ils disent. Mais après, c'est quand même l'artiste qui choisit les couleurs, les matières, etc. Donc c'est beaucoup de contraintes, mais au final, je pense que c'est un partage avec l'artiste et on s'amuse à créer quelque chose, son image. Et non, c'est super, franchement.
Donc ouais, c'est plutôt l'artiste en fait qui impulse l'idée avec toi que la délégation.
Alors en fait, généralement, moi je travaille d'une manière. Les artistes vont venir, vont me donner une thématique, quelque chose. Moi, je vais leur préparer des mood boards avec des recherches iconographiques de tout ce qui concerne ce thème. Après, on va choisir les codes qui nous intéressent de chaque image qu'on sélectionne. Et après, viennent les croquis, les échantillons de matière, les échantillons de broderie, donc plusieurs essayages aussi de toile. Donc, c'est vraiment un long processus avec beaucoup d'étapes. Mais voilà, ça, au final, ça, je pense que ça a bien claqué sur le stage, donc...
Ça, c'était
pas mal.
C'est le mot.
Et c'est important pour toi d'avoir une connexion avec l'univers de l'artiste, ou au contraire, tu te dis, bon, je peux me baser sur un peu n'importe qui, entre guillemets, ou faut vraiment que tu aies une... Alors, j'aime bien. Quand j'aime bien l'artiste, c'est beaucoup plus facile.
Ouais.
Parce que je vois son univers, j'ai regardé déjà beaucoup ses clips, j'avais déjà aussi bossé avec Cookie, qui avait porté des pièces dans un de ses clips. Donc... Non, franchement, c'est l'artiste, c'est important qu'il me donne son avis aussi. Mais voilà.
Tu disais que c'était un travail vraiment de sur la longue durée. En tout cas, il y avait des allers-retours permanents. Sur la robe de la Zara, par exemple, sur combien de temps ça s'est espacé et combien d'heures de travail t'as eu
l'info.
2-3 heures.
Deux jours avant.
Non, non, non. 6 jours avant.
Et il y a une sieste entre temps.
6 jours avant.
Attendez, parce qu'il y a 6 jours avant.
Donc, 6 jours avant. Rien n'était scellé 6 jours avant l'Eurovision. Donc c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait une dizaine de looks à préparer. Oui. Parce qu'il n'y avait pas que la robe de stage, on avait la robe du red carpet, enfin du pink carpet,
turquoise carpet.
Voilà.
Attends, 6 jours, on vous contacte, on te contacte toi et ton équipe pour faire les tenues de la Zara.
En fait, c'était une autre personne qui devait faire la robe, mais apparemment ce qu'elle avait fait c'était dégueulasse. Donc du coup, ils m'ont contacté pour qu'on rattrape le coup.
Une belle perdue.
On a dû se taper, voilà, 6 tenues.
Et tu es parti sur cette base ou tu as tout recommencé de zéro?
Ah non, j'ai tout recommencé de zéro. Non, non, moi
je reprends pas les merdes des autres.
Ah ouais,
non.
Est-ce qu'à ce moment-là, on savait que la scénographie allait être celle qu'on a découverte, nous, à l'Eurovision, savoir ce piédestal incroyable.
Oui. Cette colonne Maurice qui tourne.
Justement, je pense que tout a été fait en fonction de ça. Et c'est pour ça que ça a changé. Ils ont changé de designer parce que ce qu'ils faisaient, c'était pas du tout approprié. Pourtant, c'était c'était les mêmes personnes qui faisaient la décoration, etc. Donc.
Il faut dire qu'il y a eu énormément de polémiques autour de la candidature de la Zara l'année dernière. Il faut qu'on se le dise, de toute façon, il faut l'assumer.
Voilà, je pense que c'est le mot chaotique, des montagnes russes émotionnelles. Toutes les semaines, on pensait qu'en fait, elle allait lâcher le morceau et qu'elle n'allait jamais y aller. D'où le côté 6 jours avant, c'est pas surprenant que 6 jours avant...
C'était dans le thème, quoi, vraiment.
Jusqu'au bout.
Mais alors, le défi, c'est que cette robe, elle commence, elle est juste au corps, on la voit toute seule, et puis ça monte, on voit du coup cette grande traîne, et puis dans seul coup, c'est la robe en fait. La robe se disparaît et on la retrouve elle toute seule sans du coup, comment
sans
on appelle
le jupon.
Ça sans le jupon,
sans l'énorme jupon. Ouais.
Est-ce que le défi du retrait du jupon au niveau du poids, enfin, j'imagine quels ont été
tous ceux qui ont fait les structures aussi, toute cette longue traîne, c'était un tissu spécial en fait qu'il fallait infuser. Parce qu'avec tous les jeux de pyrotechnie, etc., il fallait vraiment protéger. Donc moi, c'est pas moi qui ai fait le jupon. Moi, j'ai vraiment fait la robe qu'elle porte avec toutes les broderies, les épaules.
Rouge,
exactement,
les strass Starowski.
Mais après, j'ai travaillé exactement. Beaucoup de strass.
6 000, je crois que j'avais vu.
Comment ?
6 000, il y en avait dessus.
Oui.
Ah oui,
on a fait énorme. On a fait quand même pire.
Et tout à la main. Tout à la main,
par un.
Oh là là. Wow. Et vous étiez combien à monter les petits diamants ?
Je crois qu'on était 4.
Ah, c'est pas tant, hein ?
Non.
Ouais.
Mais en même temps, c'est bien sur une tenue parce que plus c'est très compliqué après d'avancer.
Oui, oui,
tu
travailles
avec une équipe, c'est des collaborateurs ?
Alors moi,
c'est...
j'ai mon assistant.
Ouais.
Et j'avais 2 stagiaires à ce moment-là, donc du coup on...
Ah bah, ça, je peux te dire qu'elles ont validé leur stage, celles-ci. Elles sont reparties avec une bonne note et une bonne alternance.
Elles ont coché
master de strassage. Exactement.
Compétence acquise.
Et une tendinite à la fin.
Alors Romain Thémenin, on aime ton style particulièrement parce qu'il est emprunté de tes références, notamment de science-fiction, tu l'évoques toi-même sur ta biographie, mais surtout on a pu voir ton travail majoritairement à la télé dans Drag Race, où en fait tu accompagnes énormément de reines sur l'émission en France et ailleurs. On voit aujourd'hui que tu offres une accessoirisation différente de la mode par énormément d'impressions 3D, par énormément de broderies, par des tissus qui sont, corrige-moi Mathieu si toi tu t'y connais mieux en style, mais vraiment dessinés, découpés et présentés de manière assez novatrice. Quel est ton moteur aujourd'hui dans la mode ?
La weed. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Enfin, un petit peu.
Que cette question était... Je l'ai belle pirouette parce que...
Vous avez 4 heures.
Non, faut juste être très patient. Je fume un petit peu, c'est sûr. Mais je sais pas. Je m'inspire beaucoup de la science-fiction parce que c'est des choses que j'aime déjà. Et c'est des choses où on voit des volumes, des textures, des formes qui sont hyper intéressantes et qui ne sont pas assez exploitées, enfin pas exploitées du tout, même dans le prêt-à-porter. Bon, moi, je ne fais pas de prêt-à-porter, je fais des pièces plus pour la scène. La science-fiction, c'est top. Même avec les drags, c'est hyper cool parce qu'elles qui sont très extravagantes, qui demandent toujours des trucs très pointilleux, très fous. Là, je ne veux pas spoiler, mais regardez Drag Race bientôt. France, Canada et Global qui vont bientôt sortir. Je pense. Il y a pas mal de choses qui vont être...
Ah, génial !
Oh, du teasing !
Spoil !
Et je crois que je suis passé au-dessus de la 3D encore.
Oh, waouh !
La 4D !
Non.
En odorama.
Faut tous mettre un casque pour regarder la robe et elle nous parle.
quasi ça.
Oh là là, oh, on a
avec un hologramme intégré.
Mais c'est beaucoup de travail. Les mois de janvier, le tournage était en février, je crois. Ouais, en février. Donc le mois de janvier était très chargé. On avait 5 ou 6 looks, je crois, à faire.
Waouh.
Et ça a piqué. Mais
on est impatients de voir ça.
Alors on revient sur l'Eurovision avant de passer à d'autres sujets. Tu as fait la robe de la Zara en 2023. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à l'Eurovision et notamment en t'y rendant sur place? Est-ce que c'est la première fois que tu vivais l'Eurovision de l'intérieur?
Alors c'est la première fois que je vivais l'Eurovision de l'intérieur, mais je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé car je n'étais pas là en fait les cinq premiers jours de quand ils font les meet and greet, quand ils font les conférences de presse, etc. C'est mon assistant qui y allait parce que je n'avais pas mon passeport de valide.
Ah merde!
Mais France Télévisions a pressé le truc, donc j'ai réussi à l'avoir assez
comme
deux
quoi.
Jours.
Je savais, il y a des passe-droits.
Le pouvoir de la téloche, hein, quand
c'est
même.
Fou, hein.
Deux jours avant la finale, j'ai pu avoir mon passeport et j'ai pu rejoindre mon assistant, mais j'y suis allé en touriste, clairement. Parce que lui,
était au
lui savait. Exactement. Il faisait un peu froid, c'était oui. Mais moi j'y suis allé en touriste, au final c'est lui qui a tout fait, tous les soirs on était en visio, je disais faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça.
Ah oui.
Merci le Brexit.
Ouais.
Exactement, ouais. Et donc ça c'était un petit peu compliqué, parce que je l'avais suivi aussi à Amsterdam, elle avait fait un pré-concert, enfin qu'elle n'avait pas fait.
Oui. Elle était partie.
Ça faisait partie des.
À cause de moisissures dans l'hôtel.
Oui. Ah là 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 là.
En tout cas, moi j'ai adoré Amsterdam.
Tu m'étonnes.
Très très détendu. Oh, des moisissures.
Pareil, on reste dans le thème.
Mais non, voilà. C'est...
Est-ce que tu as été surpris par l'ampleur de l'événement sur place? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi démesuré?
C'est impressionnant quand même. Ouais. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes et qu'on est noyé vraiment dans. Non, il y a tous les pays. Enfin, c'est impressionnant. Même quand on va dans les stages de l'Eurovision, il y a beaucoup de choses à voir. Enfin, on ne sait pas où donner de la tête. Quand on voit du monde partout, ça court de partout. C'est une fourmilière.
Mais est-ce que c'était clairement l'image que tu t'en faisais? C'est-à-dire, est-ce que avant tu regardais l'Eurovision avant cette année-là? Et en gros, est-ce que tu avais une image un peu ringarde du concours? Et est-ce que sur place, tu t'es dit, bah en fait non, c'est un gros show un peu à l'américaine?
J'avais pas une appréciation ringarde de l'émission, mais c'est vrai que je regardais pas trop. J'ai dû regarder 2-3 fois, je pense. Mais quand on y était, je me suis dit waouh, c'est quelque chose que je vis et que tu vis peut-être qu'une seule fois dans ta vie et qui est hyper cool, quoi. Donc non, c'était
et
vraiment.
Est-ce qu'en tant que, enfin, dans ta carrière de créateur, est-ce qu'il y a ça t'étiquette d'une certaine manière ou pas du tout? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est un truc bien d'avoir fait l'Eurovision ou est-ce que on s'en fout?
Alors, vu le nombre d'articles que j'ai eu en presse après, franchement,
ouais,
c'est un truc.
Il y a eu un retentissement.
Ah oui, il y a eu vraiment une répercussion. Enfin, ça m'a permis de me certifier aussi. Ouais. Enfin.
Bah, et puis particulièrement cette édition qui, bon, même si elle a peut-être pas eu le dénouement qu'on aurait tous espéré, ça a été quand même une grosse, grosse année, une grosse candidature avec énormément de presse et des magazines qui ne s'y sont jamais intéressés avant. Je parle de presse généraliste ou même très spécialisée. Je pense que du coup, particulièrement cette année, je pense que c'était intéressant
et
pour toi.
Et pourquoi particulièrement cette année-là?
Bah, parce que la Zara, c'était autour d'elle, hein, c'était le pilier central de tout ça. Et elle provoque des réactions, je veux dire, elle ne laisse pas indifférent. Je pense qu'il y avait vraiment une grosse communauté d'adorateurs parce que mine de rien, même si c'était un nom émergent, elle avait quand même une communauté déjà assez solide. Et puis même elle, normalement, elle est solide avec une belle voix, une grande voix. Et puis elle transmettait tellement de confiance en elle qu'on avait tous envie de se mettre derrière elle en mode oh là là, elle va nous porter tellement loin. Et du coup, on avait cet espoir. Il y avait tout cet espoir. Et à contrario, il y avait vraiment tous les détracteurs, des réactions racistes, des réactions sexistes à tout va, misogynes. Donc voilà, donc il y avait tout ce melting pot. Et. C'était très intéressant à regarder, mine
moi,
de rien.
Ce que je retiendrai d'un point de vue de la mode vis-à-vis de la Zara, c'est qu'à chacune de ses apparitions publiques, elle était dans une tenue fabuleuse. Et honnêtement, et bravo pour ça.
Ah,
parce
ouais.
que, honnêtement, enfin, je me souviendrai toujours de cette robe Alice au Pays des Merveilles, Damier, ouais. Jeu d'échecs.
Au turquoise carpet.
Ouais,
c'est horrible à faire cette robe.
Ah oui
ah ouais. Avec ce grand chapeau.
Plus de 200
ça,
empiècements à coudre deux jours avant.
Avant. Mais alors, du coup.
Très stressant cette robe.
Comment on dit oui? C'est France Télé qui dit on va faire ce type de robe? C'est
non,
Lazara?
Non, c'est Lazara qu'on a vu. Enfin, j'étais en relation avec Alexia, je crois que je ne me rappelle plus. Non, je me rappelle
Alexandra
plus,
Redamiel.
Alexandra, exactement.
Ara, comme on l'appelle.
Dans le milieu.
Et donc du coup on avait un groupe avec Lazara et Alexandra
et Ara.
Voilà. Et du coup, j'envoyais des photos, mais j'aime pas envoyer des photos de backstage parce que les gens ils disent ah ben non, j'aime pas. Bah oui, mais c'est pas fini. Donc ouais. C'est normal.
Et pourtant, ils arrangent jamais mieux que.
Mais Lazara n'a pas eu d'essayage alors qu'elle a des courbes quand même particulières. Donc c'était très très compliqué. Pour la robe d'Amier, mon assistant a eu énormément de retouches à faire.
Tu vois, moi, vraiment, cette année, alors moi j'étais hyper convaincue par Lazara, etc. Donc bref.
Moi aussi.
En parlant de mode, genre j'étais tellement satisfait parce qu'on sait très bien que, bon, peut-être on en reparlera du coup plus tard, mais tous les ans, bon, bah c'est pas. Les artistes français aiment le noir, les silhouettes noires, c'est le chic à la française, la petite robe noire, etc. Et là, enfin, bon, sans doute parce qu'elle n'est pas française aussi, donc je pense qu'il y avait ce truc aussi très américain où, alors en mode, je sais qu'une candidature, c'est une bonne chanson, mais c'est aussi tout ce qui entoure et le toute une esthétique et tout un message qu'on envoie. Et moi, ça me faisait du bien, quoi. Je me suis dit, putain, mais sur le tapis rouge, je sais qu'on va avoir un look solide, je sais qu'on va parler d'elle pour tout un tas de choses, et ça fait du bien, quoi. Vraiment, j'étais hyper, hyper content, hyper nourri, quoi, vraiment.
Effectivement, c'est ce que tu disais, et on a tendance à l'oublier, surtout en France, où justement l'émission n'est pas très regardée. En tout cas, c'est pas un truc phénoménal.
En tout cas,
c'est pas phénoménal comme en Suède ou autre. Mais c'est, en fait, l'Eurovision, c'est une semaine complète, et c'est de multiples événements, notamment ce tour. Quoi, Scarpette, où chaque délégation, c'est Cannes en fait. Enfin, c'est le festival de Cannes, c'est la montée des marches ou la descente des marches, je ne sais plus s'il descendait ou montait cette année. Et donc, il faut avoir un look impactant, il faut marquer les esprits au-delà même de la chanson. Ouais. Il faut un imaginaire autour de la chanson. Et Lazara, je suis d'accord, cette année, ça marchait très bien, notamment grâce à tes vêtements, plus son personnage clivant. On va dire,
et elle a gagné, alors à défaut d'avoir gagné l'Eurovision, elle a gagné le Best Style Award de l'Eurovision. Tu vois ? Donc, bravo. Et nous avons le trophée juste là.
Thank you.
Non, mais comme quoi, on est le pays de la mode, quoi. Ça fait du bien.
Justement, rayonner à travers la mode à l'Eurovision, c'est ça qui est important. Le programme existe depuis 1956 et pour moi, je le dis souvent dans cette émission, c'est une photographie de ce qu'est l'Europe à l'instant T. Et ça va être aussi une photographie parce que c'est une émission de télé du style. C'est assez flagrant de voir quand on regarde l'Eurovision dans les années 50. Ok, on décèle tout de suite la mode des années 50, la mode des années 70. Quand arrivent les années 2000, on se demande ce qui est en train de se passer dans le monde. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment les vêtements racontent autant, si ce n'est plus, d'histoire que la chanson. On va mettre vraiment en valeur les artistes. Et je voudrais qu'on partage ensemble autour de cette table les looks qui vous ont plus marqué ou qui symbolisent vraiment pour vous une époque et qu'on a pu voir à l'Eurovision de manière assez forte.
Moi, je crois que j'en ai qu'un.
Parce qu'il a regardé qu'une fois.
C'est ça.
Il n'en restera
que. C'est Netta.
Oui.
Qui a porté une tenue en impression 3D avec un truc gonflable. Je crois que c'était
son comeback.
Mais elle, je trouve qu'elle a toujours des looks hyper percutants, alors qu'elle a des formes et tout, mais elle en joue justement. C'est magnifique.
Très maximaliste, c'est très, et c'est hyper intéressant, et ça va. Et justement, ça va avec toute cette esthétique. Et du coup, c'est ce qu'on disait avec Lazara aussi. Du coup, c'est pas juste une chanson. Enfin, il faut pas juste un chanteur, une chanteuse.
Non, c'est tout un univers.
Derrière le micro, etc. Non, il nous faut plus. Et parce que sinon, ce sera un podcast en fait. Et on sera un petit peu chier,
Toi, Mathieu, qui est spécialiste du coup de la mode et qui le couvre pour le magazine Elle notamment, quand tu vois une année Eurovision, j'imagine que le style est prépondérant pour vous. Sur quoi vous vous attardez et quelles sont dans les éditions récentes, par exemple, les choses qui vous ont marqué?
Moi, je suis un énorme fan de l'Eurovision depuis que j'ai. Je pense que mon premier souvenir d'Eurovision, c'est l'ordi 2006.
Très beau look. Tu es extrêmement jeune.
Oui, j'avais 9 ans. Donc du coup, je crois que j'avais même pas trop le droit de regarder. Enfin bref, parce que c'est tard.
Oui,
je pense que j'ai même pas vu la victoire du coup à 3h30 du matin. mais du coup, mine de rien, cet exemple-là de l'ordi qui n'est pas forcément le style de mode que j'aime, mais mine de rien, c'est quand même quelque chose. Alors pour le contexte, du coup, c'est des créatures, des monstres vivants, enfin c'était des démons quoi. Et du coup, c'était un groupe de rock et c'est hyper impactant. Et on se dit, waouh! Alors, autant, du coup, ça me faisait un peu peur quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, je me dis, putain, c'est quand même incroyable parce que c'est absolument fabuleux. Je veux dire, le travail des détails, c'est quand même dingue. Et Moi, c'est quelque chose que j'aime chaque année, même si j'adhère ou j'adhère pas avec la chanson, peu importe, je me dis, waouh, il y a eu du taf derrière, il y a eu de la recherche de toute une délégation, et on sait bien que ce n'est pas juste, alors même si tu as dit que l'artiste est quand même central dans la décision, moi, j'aime croire que c'est un travail collectif et que tout le monde se dit, bon, vers quoi on va aller pour respecter quand même l'ADN de l'artiste, mais vers quoi on va aller pour que ça soit impactant et pour que telle personne se reconnaisse dedans. Enfin, j'adore ça. Et l'un des looks... alors, j'ai plein de looks marquants, évidemment. Mais l'un des looks les plus intéressants d'une édition récente, ça va peut-être être surprenant, mais c'était Maniza de la Russie, la dernière candidature de la Russie.
Oui.
Où, en fait... Donc il y a une espèce de transformation et c'est, en fait c'est très politique
j'avais préparé tenue. Tout ça.
Ah désolé, bon, alors je te laisse peut-être pour après. Et du coup elle est dans une tenue de
babouchka
donc très traditionnelle de la Russie et en fait elle se dégage de ce truc, de cette espèce de carcan pour arriver dans une espèce de combinaison de plombier garagiste en mode très moderne et sa chanson était c'était Russian Woman.
C'est ça.
Donc c'était très féministe et politique, et c'est la dernière candidature de la Russie. Donc je trouve que c'est très symbolique, mine de rien, même si je pense qu'il pensait pas que ce serait la dernière, mais je trouve ça très symbolique. Après, j'en ai plein d'autres, des tenues impactantes. Je me souviens de Madame Monsieur, où j'avais adoré, évidemment. Parce que,
c'est marrant, t'as aimé Madame Monsieur.
C'était le plus. Alors. Moi, j'aurais changé plein de choses pour la mise en scène de Madame Monsieur.
Ah, ben ça, oui. Eux-mêmes le disent. Hein. Ils n'ont pas été soutenus par France Télé.
Non. Mais.
Ils avaient des idées et puis on leur a dit non.
Et ils se sont retrouvés avec une guitare et. Ouais, bon. Ah, si on pouvait changer plein de choses, je pense qu'on changerait tout.
Ben voilà. Et ben du coup,
les tenues sont incroyables.
Vous me faites une transition parfaite parce que cette tenue a été confectionnée par Jean-Paul Gaultier. Et,
oui.
Et du coup, l'Eurovision, on en parlait tout à l'heure, Romain, c'est un tremplin pour les créateurs, c'est un tremplin pour les stylistes. Et il y a énormément de grands créateurs qui ont confectionné des tenues pour les chanteurs et les chanteuses de l'Eurovision. Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, Christian Lacroix, Courrèges. Enfin, il y a énormément de grands noms qui ont prêté leurs mains et leurs talents au programme. Madame, Monsieur, Jean-Paul Gaultier, 2018. C'est assez sobre finalement, mais très classe.
C'est du graphisme. Alors, donc ils sont en noir. De toute façon, il fallait qu'ils soient en noir parce que c'était leur DA et la chanson, j'avoue. Et c'était à des belles épaulettes comme ça. Moi, je trouvais ça absolument magnifique. Ils étaient très à l'aise sur scène parce qu'il y avait juste un... Je crois que ça faisait une demi-jupe, etc. Enfin, c'était très... En plus, c'était très androgyne. Donc, il y avait tout un truc...
C'est ça qui marche.
Très sympa. Ouais. En fait, ils se confondaient. Même si lui est brun, elle blonde, platine, ils se confondaient et c'était absolument sublime. Après, c'est vrai que j'en ai reparlé... récemment avec notamment avec Fabien Randan
qui a son rond de serviette également
c'est vrai qu'il est très souvent dans les parages
et
c'est,
vrai
qu'on,
table,
c'est vrai qu'on se disait pour une chanson avec un message si politique de solidarité tout ça, être habillé avec une tenue de haute couture, est-ce que c'était vraiment le bon choix malin? Bon, certes, mais j'avoue que j'étais content qu'on soit bien Jean-Paul Gaultier et que en plus je les adorais eux, donc j'étais hyper
content. C'était sobre et classe en fait. Enfin, il y avait vraiment, c'était épuré, mais c'était très beau.
Ouais.
Sur la mode, Jean-Paul Gaultier a aussi fait les looks dans Goon. Il a fait le look de Dana International, premier artiste transgenre à se présenter à l'Eurovision de manière ouverte.
Je rebondis sur Dana International et avec la remarque que tu faisais, Romain, sur tout à l'heure en disant il y a des impératifs particuliers à faire sur certaines robes pour pas qu'il y ait du bruit. Particulier. Jean-Paul Gaultier avait fait une première robe pour Dana International en 2000.
Un boléro. Il avait fait un boléro en plume de perroquet qui était extrait de sa dernière collection.
Exactement.
En ara.
Le problème, le problème, c'est qu'en répétition, ça touchait le micro et donc en fait, par un effet de micro, on entendait en permanence des frottements. Donc ils ont dû changer de robe au dernier moment. Et voilà. Et donc elle a remis cette robe à la fin de l'émission pour aller chercher le prix parce qu'elle avait gagné cette année-là. Et là, du coup, c'était très joli, mais comme elle ne rechantait pas, en tout cas, c'était après qu'elle rechante, bien, de toute façon, elle est tombée parce que le prix était trop lourd. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des impératifs où parfois on a des idées créatives et ça s'impacte sur le mur de la réalité.
En tout cas, ce qu'on aime avec Jean-Paul Gaultier, c'est que quand il vient, on sait que c'est lui. C'est-à-dire que ce corset qui est toujours symbolique de, Mais moi, je me pose la question, une artiste qui porte un corset, qui doit chanter, qui doit danser, est-ce que c'est pas handicapant? Toi, Romain, par exemple, quand tu crées du coup des corsets ou des tenues comme ça, assez rigides, on voit que les ouvertures sont très ouvertes derrière. Quelles sont les astuces d'un point de mode quand on veut comme ça définir un look à la fois...
Esthétique
mais pratique mais pour une chanteuse. Pratique,
ouais, voilà.
Bah, il faut trouver un juste milieu, tout simplement. Là, la Zara, la robe qu'on lui avait fait, c'était une robe élastane, mais en dessous, elle avait quand même une gaine et un corset qui était vraiment très très serré. Donc,
ça se voit,
c'est un exploit pour elle, je trouve. La voix qu'elle donne avec ce tout petit, toute cette toute petite taille vraiment gainée, moi je trouvais ça vraiment. Abasourdissant.
Alors pour travailler également avec des artistes qui font du drag, ils ont quand même l'habitude en fait c'est même pas une réflexion qu'ils ont, c'est oui on sait ça, on va en chier, enfin tu vois c'est comme ça.
Bien
en
sûr.
Fait ça fait partie du truc d'être comme ça, ça fait partie de l'esthétisme et tu te démerdes pour chanter comme ça et puis enfin ouais c'est une contrainte, mais enfin moi là aujourd'hui enfin je sers derrière, moi je suis m'en fous, ils s'en foutent maintenant
comme Trudy dans Titanic. Sur le corset.
Et la Zara, on l'a lassé pas un tout petit peu, on l'a serré vraiment très fort.
C'est ça
qui lui donnait cette forme sablier, était magnifique.
C'est ça
quoi.
Qui marche hyper bien, c'est très très beau. Puis je trouve que ça sublime vraiment le
les
corps
formes,
de la femme,
complètement.
C'est hyper beau.
C'était top.
Mais alors, peut-être on Mais sur la version finale, elle porte pas de corset, si?
En dessous, si.
Parce que c'est quand même beaucoup moins.
Ah non,
c'est qu'elle a bien mangé à la cantoche.
Exact, je crois que. Non, tu as raison. Je crois que la version finale, elle avait pas oublié de mettre le corset. Ça baillait justement.
Et c'était ça, beaucoup moins comme ça que.
Et je crois qu'on avait ras le cul à ce moment-là.
Ah, ben ça se voit. Et.
même
la coiffure, normalement, elle devait avoir ce truc très cranté. Et en fait, elle a des petites boucles comme ça. Je crois qu'elle avait.
On avait marre.
On avait ras le cul.
Alors, ce qui est intéressant avec la mode à l'Eurovision, c'est qu'elle évolue avec son temps. Et dans les années 50, on est vraiment sur des robes, robes crayon, robes empire. On va vraiment être sur des tenues. Et principalement féminin. Le look est très féminin. Le masculin. C'est costume, cravate ou costume de papillon pendant très longtemps. La mode évolue, la mode suit son cours. Et puisqu'on est une émission télé, il faut qu'on soit un peu en séduction du téléspectateur et du coup qu'on montre qu'on est aussi présent dans les mœurs. En 1968, c'est la première fois que la mini-jupe fait son apparition sur la scène et qu'on voit des genoux.
Ouh là là !
Sur la scène de l'Eurovision.
Les visiteurs, quoi. Montre-moi tes chevilles.
C'est vrai. C'est vraiment ça. Mais on reste, si vous voulez, on reste dans des modes qui sont très classiques et somme toute très en phase avec leur temps. Les années 70, c'est le strass, c'est les paillettes, c'est les pattes d'eph, on commence à accessoriser, etc. Les années 80, c'est
une catastrophe.
C'est les années 80, c'est demander à un enfant pour la première fois de choisir ses vêtements tout seul. Beaucoup trop de liberté, ça mène à tout et n'importe quoi.
Moi, j'ai
beaucoup de mal avec le look des années 80 qui revient aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes dans le monde de la mode de cette décennie-là?
Alors, c'est pas ça revient pas autant que les années 90 ou les années 90 là sont vraiment il y a eu un retour des années 80 et bon c'est un peu c'est plus les années 90. Les années 80 en effet il y a beaucoup de gens de spécialistes de la mode qui détestent cette décennie parce que alors même si ça a été une décennie d'expérimentation et du coup qui a fait quand même beaucoup de bien notamment dans le vestiaire des femmes, c'est vrai que c'est un peu chaotique là encore une fois. Moi c'est pas ma décennie préférée et c'est vrai que quand on voit Céline Dion par exemple
c'est rude, hein.
C'est compliqué, hein. Cette espèce de tailleur avec une longueur, on ne sait pas trop où se placer, et ses épaulettes
ça c'est dur, puis ça se finit en jupe.
Et puis alors sur le plat, oui c'est vrai, c'est en.
Et en haut on dirait une avocate.
Ouais, c'est vrai. Et sur cette espèce de plateau en mode gaming absolument affreux, c'est
vrai.
Innommable.
Dion, Sandra Kim qui remporte la Belgique également en 86. On a une coupe mulet, une veste avec des épaulettes, des. C'est vraiment l'année du what the fuck au niveau de la mode.
Il n'y a pas de limite.
Mais de toute façon, on est toujours très sévère avec ce qu'on a porté X années auparavant. Ouais. Et je pense que, désolé, mais ça se trouve, la robe de la Zara, dans quelques années, on va se dire, mais comment elle a pu porter ça ? Je ne pense pas en l'occurrence, parce que c'était quand même très chic. Mais voilà, je veux dire, il y a des... il y a plein de tenues que les artistes ont portées. Enfin, même nous, je veux dire, on se regarde sur des photos, on se dit comment on a pu porter ça, mon Dieu.
Oui, alors donc voilà, croyait, donc c'est très top.
Les années 2000,
c'est très naturel.
Je garantis que les années 2000 aussi.
La tectonique.
Ouais, tu vois, des trucs dans le genre. Ouais.
Ou le. Rien qu'un petit piercing de Drazik, tu vois. Combien d'hommes ont fait ça?
Et l'Eurovision, on est un beau témoin, puisque Epic Saxo Guy, par exemple, reflète très bien.
J'adore.
Ce qui se faisait. Non, mais visuellement, c'est dégueulasse.
Oui.
Et ça
Epic Saxo Guy.
Avec la paire de lunettes et l'espèce de veston beaucoup trop serré comme ça.
Des trucs argentés autour des yeux. Et vraiment, c'était tectonique cascada un petit peu mélangée.
Ces coupes mulets blondes avec des mèches comme ça, perruques.
Après, attention, c'est la Moldavie, donc.
Ouais.
En 2006,
c'est
en Moldavie.
C'est dans un multivers. Voilà.
2006,
on peut pas
Moldavie,
leur en vouloir.
C'est 1980 en France.
Les looks sont what the fuck parfois à l'Eurovision. Et là, Quentin, bah du coup, je pense que tu peux peut-être nous éclairer aujourd'hui à ce propos.
Allons-y.
C'est l'instant.
You.
Elodie.
L'instant.
You.
L'instant.
You.
C'est l'instant.
You.
Gossuin.
C'est l'instant Elodie Gossuin.
Alors, l'Eurovision, comme on vient de le voir, ce n'est pas qu'un concours de chansons. C'est aussi un défilé de mode. Des créateurs et des créatrices rivalisent d'ingéniosité, de talent et de créativité pour réaliser les plus belles tenues pour briller le soir de la finale. Mais l'Eurovision, ce n'est pas que le temple du bon goût. Parfois, souvent, diront les mauvaises langues, on bascule carrément dans le fashion faux pas et alors on a envie de dire aux candidats
« ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. »
Comme tu le dis très bien, Christina, ça va pas du tout. Eh bien, sachez, chers auditeurs et auditrices, qu'il existait, on y reviendra un petit peu plus tard, un prix spécial décerné chaque année depuis 1997 aux candidats de l'Eurovision qui, officiellement, a le look le plus marquant. Officieusement, il est clairement décerné au candidat, disons-le gentiment, qui était le plus mal fagoté, avec la tenue la plus moche, la plus what the fuck, en quelque sorte. Ce prix spécial, c'est le fameux Barbara Dex Award. Le but de ce prix, vous l'avez compris, c'est de récompenser celles et ceux qui, comme Meryl Streep le dit très bien dans Le Diable s'habille en Prada.
Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode?
Je crois que ça dépend de ce que vous entendez.
Non. C'était pas une question.
Effectivement, ce n'était pas une question. Petit retour historique sur ce prix. Tout commence à l'Eurovision 1993, organisée en Irlande. Et sur scène, la candidate belge du nom de Barbara Dex, elle a bien nommé, chante sa chanson en néerlandais, Jemand als je. J'ai appris, j'ai fait des efforts. Ouais. La chanson, on s'en fout, c'est la soupe.
Elle a fini combien, on sait?
Justement, nous ne sommes pas là pour parler de la performance de Barbara Dex, qui justement termina dernière du concours.
Oh, oh non, la pauvre.
Oh, sale temps.
Barbara.
Barbie.
Barbe pour les intimes. Justement, ce qui compte, c'est sa robe. Enfin, sa robe, c'est vite dit. Déjà, elle a eu des problèmes puisqu'elle a dû faire elle-même sa robe.
Oh
l'Irlande,
non,
les Pays-Bas de l'époque n'avaient pas suffisamment de budget. Grossièrement, on a l'impression que Barbara, pressée par le temps, a découpé sa robe dans un rideau en flanelle semi-transparent qui traînait chez elle avant de filer en Irlande.
Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou
pas ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
Effectivement, elle a bien pris n'importe quoi. Paul Deleu, le commentateur néerlandais du concours de 93, pas chauvin pour un sou, déclara tranquillement à la fin de la chanson qu'un prix de la robe la plus laide devait être créé en l'honneur de Barbara Dex.
C'est laid.
Effectivement, c'est bien laid. Quelques années plus tard, en 1997, deux fans néerlandais, encore eux, ont créé le fameux Barbara Dex Award, récompensant non pas la robe la plus laide, mais le look le plus marquant. Les deux premières années, ce sont nos deux compatriotes néerlandais qui ont désigné le gagnant, puis à partir de 1999, c'est via un vote en ligne que les gagnants furent désignés. En 25 ans d'existence, le Barbara Dex Award a récompensé des propositions vestimentaires audacieuse, comme Nina Kragić pour la Croatie en 2017. Parfois franchement dégueulasse, comme Milan Stankovic pour la Serbie en 2010. Mais toujours assumée, et de temps en temps Trey Kemp, comme Verka Serduchka, gagnant du Barbara Dex en 2007. Mais en 2022, tout s'arrête.
C'est la fin, le tout dernier matin.
Les responsables actuels de ce prix ont décidé pour l'édition 2022 de ne pas organiser de vote car selon eux, ce prix suscite trop de moqueries et ne fait entendre que des connotations négatives concernant les costumes des candidats. Le Barbara Dex Award est alors remplacé dès 2022 par le You Are a Vision Award. Jeu de mots. You Are a Vision, Eurovision, vous l'avez ?
Excellent ! Bravo.
Des années de travail. Récompense censée célébrer cette fois les costumes les plus créatifs, diversifiés et positifs à l'Eurovision. En 2022, c'est le chanteur australien Sheldon Riley qui remporte ce prix. Et en 2023, on peut légitimement dire que le Barbara Dex est de retour, puisque c'est Karja, le chanteur finlandais surexcité avec ses danseurs de cha-cha-cha, qui remporte la martingale. Alors, chanteuses et chanteurs de l'Eurovision, quoi qu'il arrive, que vous remportiez le concours ou que vous terminiez à la dernière place, que vous soyez moqué, vilipendé ou porté au nu en raison de votre style vestimentaire, sachez que, comme le dit très bien Christina Cordula, vous êtes toutes et tous
magnifiques, ma chérie.
Bravo, merci Quentin.
Merci.
Bravo Quentin.
Bravo. Est-ce qu'on l'a gagné le prix Barbara Dex ? Enfin, on, je dis la France.
C'est une très bonne question.
Et tu n'as pas la réponse.
Je vais te dire ça dans un instant.
Alors, justement, l'Eurovision et ses looks un peu what the fuck, c'est une scène éclectique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir, des artistes avec vraiment une audace artistique et parfois peut-être un peu trop poussée. Il y a des looks à l'Eurovision qui n'appartiennent qu'à l'Eurovision. Quand on se présente sur cette scène, on souhaite marquer les esprits. Moi, il y a des looks effectivement qui me parlent plus que d'autres. Verka Serdushka, pour moi, cette étrange créature toute de boule à facettes vêtue avec une étoile sur la tête et des lunettes de soleil. Oui, on me dit Eurovision, je pense à
ces looks-là. Mais moi, je pense ça, c'est A440, Émilie Jolie. Comment tu t'appelles A440 ? C'est lui. Vous ne trouvez pas ?
J'ai pas la ref.
Pour moi, A440, c'est un nom d'avion.
Je vais donc y aller avec ma vieillesse, n'est-ce pas ?
Mathieu, toi qui es spécialiste de la mode, quels sont les looks du coup à l'Eurovision qui sont à retenir ?
Très what the fuck ? Ou peu importe ?
Peu importe.
Bah, alors, déjà, je pense que, parce qu'on a oublié de le citer, mais je pense que c'est important d'en parler, Bilal Hassani, mon Dieu. Mais il nous a fait du bien, alors à tout point de vue, mais vraiment au niveau du look. Il s'était fait habiller par Dylan Parianti, qui est un créateur notamment de robes de mariée, et ça se ressentait dans, notamment sur le tapis, je crois que c'était orange cette année-là.
Oui, chaque année ça change.
Ouais. Et c'est cette grande traîne dont ça avait tellement fait parler, parce que c'était en fait... mi-garçon, mi-fille, même si j'aime pas dire ça, mais du coup, et ça représentait vraiment son univers avec sa grande perruque blonde incroyable. J'aurais aimé, Bilal, si tu nous écoutes, j'aurais aimé que ce soit ce look-là sur scène et que ce soit pas cette espèce de combinaison très. Je sais pas, je trouve que ça allait pas avec. Bref, c'est fait.
Sale histoire, n'y revenons pas.
Quant à toi, t'as une idée de style
J'en ai 122. Si vous avez quelques heures, d'abord, petite confirmation, la France n'a jamais remporté le Barbara Dex Award.
Mince.
Merci
mince.
Wikipédia.
Ouais. Ah bah non, tant mieux. Plaisanter un peu de fierté nationale.
Oui, c'est vrai. qu'on gagne tout niveau, ce serait bien.
Alors moi, j'ai un look, mais qui est un look sans être un look. Je m'explique. J'ai un look de la chanteuse estonienne Elina Netcheyeva, qui a chanté La Forza en 2018. Pourquoi je dis que c'est un look sans être un look ? Parce que je trouve que c'est la quintessence de l'Eurovision. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une robe qui est à la fois une performance artistique qui est pour la chanson. Très concrètement, elle a la superficie d'un terrain de tennis autour d'elle qui lui sert de projection pour projeter tout un tas d'images extrêmement belles qui mettent en avant la chanson. C'est un peu un voyage, une espèce de voyage onirique.
Ah ouais.
Voilà, elle est juchée au-dessus d'une plateforme de 3 mètres de haut. Et fun fact, elle a dû faire un appel à financement pour que l'Estonie lui envoie les 3 projecteurs qui sont nécessaires pour faire ces images-là, parce que l'Estonie n'avait pas les moyens d'envoyer.
Incroyable.
Et donc, en fait, tout ça a coûté près de 100 000 euros. Et donc,
100 000 euros,
parce qu'en fait, il faut des projecteurs extrêmement puissants pour que ça se ressorte bien à la tête, vu la superficie de la robe. Et puis, il y a vraiment des effets lumineux en 3D, avec des caméras plongeantes, pour qu'on a l'impression, en fait, de voyager, limite d'avoir des lunettes en 3D, et de voyager au milieu de la robe avec elle qui chante au milieu. Donc voilà, c'est pour moi l'Eurovision, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est un look un peu classique, elle est littéralement dans un drap concrètement, mais qui sert le propos, qui sert la mise en scène.
Il y a pas de limite à l'Eurovision, j'ai l'impression, dans la mode, et quand on est styliste et créateur, j'imagine que ça doit être un terrain de jeu incroyable.
Des fois, on s'y perd, oui. C'est vraiment... là, surtout avec la 3D, là, je fais beaucoup d'impressions 3D. C'est, je me perds vraiment dedans parce que c'est infini. On peut faire tellement de choses, créer de la texture. Et il faut faire très attention de ne pas se perdre dans ce métier-là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration partout. Moi, j'évite de regarder aussi trop d'autres marques pour ne pas être influencé. J'essaye de rester vraiment dans mes univers un peu science-fiction, de jeux vidéo, films d'horreur. J'aime bien ce côté dark qui est très... Mais voilà, j'essaye de me centrer sur cette DA pour pas partir dans tous les sens. Sinon, tu finis jamais une collection, quoi.
Et des fois aussi, la proposition artistique est tellement forte qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus. Et je pense notamment à la plus grande gagnante de tous les temps, qui est Conchita Wurst, où, en fait, la chanson est tellement grandiloquente qu'elle a juste une robe dorée fourreau comme ça, avec sa taille, là aussi, absolument fabuleuse. Et la robe, même si elle est très très simple, en fait elle est devenue iconique parce qu'en fait c'est une espèce de robe dorée avec des manches longues comme ça, drag queen évidemment à barbe, donc en 2014, mon dieu, ça faisait frissonner un peu partout. Ouais, cette robe est devenue vraiment légendaire et cette silhouette est devenue iconique, quoi.
Et puis avec la mise en scène avec les flammes derrière,
les ailes en flammes, c'était extra.
Au niveau de l'Eurovision, Agathe, est-ce qu'en tenue, il y en a qui te marquent ?
Bah non. Non, je rigole. non, moi je suis une vieille dame, donc je vais parler de l'époque que j'aime bien. Non, moi, c'est tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, la robe Courage qu'a portée l'Espagnol en 68. Donc moi, la robe Courage de Maciel, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, Thomas, c'est la première fois donc, qu'on voyait des genoux à l'Eurovision. Et voilà, je trouve ça marquant. Et donc 68. J'adore Courage, donc voilà, ça me fait toujours un petit quelque chose et je la trouve particulièrement réussie, particulièrement belle. Et je crois qu'elle a gagné.
Oui, elle a gagné cette année-là.
Et je veux croire que Courage y est pour quelque chose.
Grâce aux genoux.
Grâce aux genoux. Non, mais
c'est peut-être.
Peut-être.
Ça a touché le public.
Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, que ça n'ait pas été rédhibitoire. Et c'est déjà tard, putain, 68. C'est déjà hyper tard après cette libération dans ces années-là. Enfin, voilà, je trouve ça déjà hyper tard pour voir des genoux à l'Eurovision.
Moi, un look qui me plaît énormément à l'Eurovision, mais je pense que c'était un tout et cette prestation, elle m'évoque mes meilleurs moments d'Eurovision. Ça va être Chanel pour l'Espagne en 2022.
Alors, il faut savoir qu'à chaque épisode, Thomas doit parler de slow-mo.
Non, mais en l'occurrence, t'as vraiment raison parce que quand je parlais de faut que ce soit logique avec l'univers, qu'est-ce que c'est logique?
Bah, oui.
Le petit boléro de Toreador comme ça, mais avec les espèces de cuissardes brodées aussi. Oh là là! Et en même temps, c'est très sexy comme elle. Ça aurait pu faire un truc. Bon, voilà. C'est fait vraiment... Ça se voit qu'ils ont dépensé du pognon là-dessus, tu vois. Non, mais vraiment, en vrai, ça fait plaisir quand tu vois un truc qui... Ça se voit que c'est de la bonne qualité, quoi, et que c'est bien fait. Et mine de rien, et ça matchait. Et ça raise up vraiment la prestation, en plus de son charisme et de sa danse. Et, bon, la chanson, je suis pas le plus grand fan, mais...
Dis pas ça, malheureux. Ouais, tu vas plus jamais être invité.
Tu n'auras jamais ton rond de serviette.
Bon, en tout cas, voilà.
Et toi, Thomas ?
Ben, moi, je vous en parle, là, voilà, Chanel, mais il y a une infinité de looks, en fait, à l'Eurovision.
Vas-y.
C'est difficile, en podcast, de parler de ça. Et sur Instagram, on va poster, je pense, régulièrement des tenues à présent pour échanger ensemble sur ces tenues. Mais ce programme offre justement le voyage temporel de l'évolution de la mode et offre aussi une liberté d'expression qu'on ne trouve dans, j'ai envie de dire, aucune autre émission à la Star Academy ou dans d'autres émissions de divertissement, si ce n'est Drag Race qui va aller chercher vraiment l'extravagance. Mais là, parce que aussi c'est l'art du drag qui permet ça et qui est malheureusement pas encore accessible à tout le monde, l'Eurovision, sur la masse, on parle quand même de près de 200 millions de téléspectateurs au monde, offre une fantaisie infinie. Et dans la mode, c'est incroyable.
Mais justement, et je pense qu'il y a un lien, je rebondis, parce que tu sais que j'aime beaucoup rebondir sur ce que tu dis, Thomas.
Oui.
Je pense qu'en fait, il y a un lien évident avec l'arrivée du télévote à l'Eurovision. C'est-à-dire que jusqu'en 99, c'est que des jurys qui votent. Donc, c'est que des professionnels de la musique ou du monde de la musique, de la production télévisuelle. Et à partir de 99, au début, c'était 50-50, puis après 100% télévote. Et puis là, on est de nouveau revenu à 50-50. Mais donc, on voit aussi très bien que comme c'est une émission de télévision, même même si c'est de la chanson, il faut impacter la mémoire du téléspectateur. Et le vêtement, au-delà même de la chanson, avec... c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, c'était un tout, effectivement c'est un tout, et le vêtement, une couleur flashy, quelque chose vraiment où les gens vont s'en souvenir, de se dire, oh là, il y avait une écharpe orange, il y avait une peau de bête, il y avait quelque chose de très impactant. Pour le télévote, c'est très important, et dans une des chansons que j'adore, et avec une mise en scène, en tout cas un vêtement marquant, moi je me souviens vraiment de la chanteuse ukrainienne, du groupe Goé, et avec leur chanson Choum,
ouais,
avec
la fourrure verte
radioactive qui vient de Tchernobyl, vert fluo. C'est-à-dire que la chanson déjà est impactante en tant que telle. C'est-à-dire que c'est un ovni de la soirée. Et en plus, visuellement, les gens, même s'ils ne se souviennent plus du titre, ils ne se souviennent plus du pays, ils se redisent « Mais oui, tu sais, le truc vert fluo !» Et ça marche. Et c'est pour ça que je pense que deux années plus tard, quand le Finlandais, d'ailleurs, enfin l'année dernière, du coup en 2023, quand le Finlandais Karja a gagné le télévote, c'est aussi parce que c'était visuellement impactant, l'espèce de boléro en vert fluo. Là aussi, il faut trouver une couleur flashy, il faut trouver quelque chose qui va impacter la mémoire du téléspectateur, parce qu'au moment de voter, on a vu 26 chansons, parfois en plus on est un petit peu bourré, donc on se souvient plus très bien. et donc il faut qu'il y ait quelque chose en disant « Mais si, c'était génial, ouais, le truc vert fluo !» Et c'est pour ça que je pense que depuis le télévote, les pays ou la majorité des pays ont bien compris qu'il fallait impacter visuellement le téléspectateur.
On impacte visuellement le téléspectateur, mais aussi on se sert de la scène comme un étendard, puisque beaucoup de pays vont mettre en avant leur folklore. On va avoir, peu comme le défilé de Miss France en tout début, l'arrivée de certaines tenues folkloriques. Tu parlais de la Russe tout à l'heure qui arrivait en babouchka, mais on a justement toutes ces petites mamies qui sont en tenue babouchka et qui sont venues sur scène vraiment...
Une tenue folklorique de l'Oudmourtie, donc une sous-région, enfin une région russe, avec du coup un tissu spécifique de cette région-là de Russie. Tout ce qui est folklorique, j'adore.
Non, mais c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vraiment, le au-delà même du pays représenté, il y a même on peut parler aussi de chez nous, les Bretons de Albanéaez, qui étaient du coup habillés avec. Je crois que c'était un vrai créateur breton. Oui. Qui n'était pas très connu d'ailleurs, donc je trouve ça cool qu'ils aient fait confiance
avec des brodures des brodures dorées en forme de trinité.
Ouais.
Des choses vraiment ça évoquait le folklore.
Au-delà même du pays, il y a les régions et même les sous-régions, je sais pas, les communes qui sont représentées et c'est hyper important pour la représentation. Quoi.
C'est ça. Et je rebondis donc pour développer un petit peu sur Manitza, la chanteuse russe en 2021, parce que vraiment il faut comprendre que même si on ne comprend pas ce qu'elle chante, mon indicateur, c'est ma mère qui ne comprend rien à l'anglais, qui ne bite aucun mot. Et elle me dit, je me souviens parce qu'à chaque fois on débriefe l'Eurovision après par téléphone, parce qu'on le fait ensemble, on le regarde ensemble, enfin avec vous. Et elle m'a dit, j'ai rien compris à ce qu'elle a chanté, mais avec la mise en scène et le vêtement, elle a compris le message. Et c'est là où je trouve que ça marche très bien. Cette chanson, donc, elle démarre dans une poupée russe gigantesque sur roulette qui emmagasine une dizaine de vêtements régionaux. Très, très matrioshka, justement, avec des poupées russes, avec tout un tas de tissus, j'imagine, qui ont une explication vraiment locale ou régionale, dans tout un tas de zones en Russie. Et elle se fait balloter, c'est-à-dire qu'au tout début de la chanson, elle se fait balloter, on comprend que son costume est trop grand pour elle, qu'elle ne se retrouve pas dans l'identité folklorique, en tout cas dans cette image traditionnelle de la femme russe. Et puis, milieu de la chanson, paf, ça part en rap d'ailleurs musicalement, donc là aussi, il y a une bascule. Elle ouvre en deux cette poupée, elle en sort, et effectivement, un petit peu comme sur l'image de We Can Do It, de la travailleuse américaine, l'ouvrière
Rosie.
Américaine, elle a en rouge, et puis là, du coup, c'est la femme moderne russe. Et donc, en fait, même si on ne comprend pas les paroles, avec le vêtement, il y a un message qui est envoyé, en plus un message très politique pour le coup, et qui élève, là encore une fois, la chanson.
Et peut-être qu'un jour, on aura des sous-titres.
Peut-être.
Pas.
Alors certains pays le font.
Ouais,
c'est-à-dire les
sais.
Pays scandinaves mettent les sous-titres dans les chansons.
Mais là, du coup, le vêtement est aussi porteur de tradition, porteur de valeur. On va vouloir remontrer au monde entier que oui, ok, on est un pays, on est l'Estonie, on est la Moldavie, on est la France. Typiquement, la Zara, on a voulu remettre le style et la classe en avant avec cette tenue. Moi, je pense que honnêtement, le look a été une réussite. Je pense que ça fera partie et ça fait partie des looks mémorables aujourd'hui de l'Eurovision. vision de cette robe.
Ouais, très bien.
Est-ce que Romain, tu peux nous dire où est-ce qu'elle est cette robe aujourd'hui?
Ah oui,
oui, je crois que c'est elle qui l'a gardée. Elle a gardé pas mal de choses, elle doit me rendre des choses d'ailleurs.
Ceci est un message non subliminal.
Peut-être qu'elle a tout brûlé pour oublier cette époque de sa vie.
Non, elle a pas mal de choses, enfin, je lui ai prêté plein d'accessoires. Je crois qu'elle a les gants que Lady Gaga avait portés aussi, donc il faut qu'elle me les rende.
Ceci est vraiment un message.
Zara, si tu m'écoutes, il faut que tu me rendes les gants.
Tu travailles du coup aujourd'hui avec de nombreux artistes.
Ouais.
Dans Drag Race, tu nous disais dernièrement, on a vu Paloma sur Drag Race Belgique mm-hmm. aussi avec cette tenue transparente, extravagante et
ah
extraordinaire.
Oui, brodée.
Quel est le look sur lequel tu as travaillé qui aujourd'hui t'émeut le plus et dont tu es le plus fier en dehors de la Zara, évidemment?
Je crois que j'étais en fond d'écran. Ouais, je crois que c'est le look de Paloma qu'on a fait pour la finale.
Ah oui,
on a fait avec Emmerich Zana qui a fait la base, nous on a fait tout l'embellissement. Et c'est là que ça, c'est cette tenue où j'ai le plus de justement de strass et de pierres. C'était
excellent.
600 000 presque, ouais, 600 000 pierres.
600 000 pierres.
Oui, à peu près, ouais.
C'est des robes qui deviennent des pièces de musée, de collection.
Bah, je crois qu'elle va l'exposer en musée bientôt. Et oui, ça nous a mis un mois à réaliser. À broder, strasser, quoi.
Poser et alors, petite question pécuniaire. Typiquement pour la Zara, qui t'a payé? C'est horrible de demander ça, mais est-ce que c'est la délégation française? Est-ce que c'est France Télé? Ou est-ce que c'est la Zara qui a son
alors,
budget?
Alors, non, c'est la production, c'est la boîte de prod de la Zara, enfin le label, je crois.
D'accord, ok.
Ouais, c'est le label. Ah ouais, c'est le label
qui paye.
Ouais, c'est le label qui m'a payé.
Donc, si t'es un artiste indépendant, ça veut dire que tu te démarres.
Ouais, mais je pense
quoi.
Que le label doit récupérer des thunes de la délégation française. Ouais. Ça fait partie du budget, okay. En fait. Enfin, je vois pas comment.
Ou en tout cas pour l'exposition médiatique apportée, ils s'y retrouvent via les concerts, via via les ventes ou les streamings.
Ouais.
Les concerts, non.
Est-ce que tu as un dernier look, Quentin, que tu veux nous partager? Vas-y.
Oui, notamment sur le folklore, sur un pays que j'aime beaucoup et qu'on connaît très peu, la Norvège. En 1980, la Norvège a envoyé donc un duo de chanteurs, dont un des
deux
chanteurs...
Parfois, Quentin, je me dis un peu, c'est Père Castor, raconte-nous une histoire.
Et qui, en fait, a envoyé une chanson qui n'est pas très intéressante, mais au milieu de la chanson, le deuxième chanteur arrive, il est habillé en costume traditionnel des Sam, donc c'est le peuple du nord de la Norvège, qui du coup, dans les années 80, n'était pas encore reconnu comme étant un peuple autochtone, comme étant le peuple originel de la Norvège. Donc il y avait un vrai enjeu politique à présenter sur la scène de l'Eurovision une minorité ethnique avec un vrai chanteur qui vient de cette ethnie-là. Donc il y avait un vrai travail, en tout cas il y avait une vraie proposition politique et artistique de mettre ça en avant pour la Norvège. Mais la chanson n'est pas très intéressante.
et Slimane, l'année prochaine,
parce qu'on parle beaucoup de du passé, mais
parlons
de l'avenir.
Oh, voyons loin.
Et j'ai été ravie d'apprendre que ce serait Charles de Villemorin, donc un jeune créateur de, je crois qu'il est à mon âge, 27 ans, qui va l'habiller. Et alors je suis très étonnée parce que c'est deux univers complètement différents. Charles de Villemorin, il est très dans le, c'est la mode très bourgeoise, grandiloquente, très Niki de Saint-Phalle, etc. Et Slimane, c'est quand même très populaire, mais pas dans le sens, dans le sens le plus positif du monde. Donc, je suis hyper content que ces deux univers se rencontrent. J'ai un petit peu parlé avec Slimane qui m'a dit que... Alors, je peux rien dévoiler, parce qu'il m'a rien dévoilé, mais que ça n'aurait rien à voir avec ce qu'il a déjà proposé.
Okay. Avec les petites facettes
autant
lumineuses.
Autant dans le clip que...
Et tu sais quoi, tant mieux. Je suis pas fan.
Tant mieux, moi,
c'est l'espèce de code de maille qui brille, c'était pas...
C'est ringos, en fait. Puis en plus, c'était sale.
Et
moi, ça m'a rendu...
Il y avait des traces de doigts.
Il y avait des traces de doigts, mais qui fait ça? Pardon. Non, mais tu fais attention. Bon sang.
Des traces de doigts où?
Sur les miroirs.
Sur la vidéo.
Sur les facettes.
Des
miroirs.
Oui, mais passe un coup de...
Mais c'est ça, passez donc un petit coup de polish.
un petit coup d'Ajax et puis c'est fini.
Mais oui, c'est terminé.
Et donc voilà, donc on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. J'imagine qu'il sera en noir, en tout cas je l'espère, moi personnellement.
Il n'y aura pas de la couleur, tu penses?
Moi j'ai envie que ce soit très sobre à la française, malheureusement, mais mine de rien, c'est comme ça que ça marche.
Avec des volumes.
Et en plus avec ça, et des volumes, et je pense que... Charles de Villemorin, alors tapez sur Google pour aller voir un peu ce qu'il fait, c'est vraiment très...
On a pu
c'est
le grandiloquent. Il a fait les vitrines des Galeries Lafayette cette année, et c'est vrai que le thème c'était un peu le pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, et c'était... T'as raison, c'était de grandes volutes de couleurs.
C'est pas dans la sobriété pour le coup.
Non.
Mais, donc normalement c'est les couleurs sont sa spécialité, mais il avait fait une collection haute couture qui était... tout en noir. Je pense qu'il va se baser là-dessus pour aller... je crois que c'était en 2021. Et Bilal Hassani, ouais, qui est géré dedans, c'est plutôt très sympa. Je pense que ça va ressembler un peu à ce qu'il a porté pour le Nouvel An, sa prestation à l'Arc de Triomphe. Pense qu'on va partir un peu là-dessus, avec des espèces de volants comme ça.
Un peu Tim Burton,
peut-être. Ouais, ouais.
Ça peut être intéressant.
Je pense que ça peut être très sympa, avec la mise en scène qu'il faut. Oh, écoutez, on est plein d'espoir, encore une fois.
En tout cas, on sait qu'il s'est chanté, lui. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute.
Normalement, on est pas mal.
Et ce qu'on retient surtout, c'est que la scène de l'Eurovision va permettre à des nouveaux créateurs, des nouveaux stylistes, ouais, de prendre de l'ampleur. Depuis que tu as fait cette robe de la Zara, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Romain, dans ta carrière, cette participation à l'Eurovision ?
De la visibilité, ça c'est sûr, de nouveaux clients, des thunes. De la visibilité, c'est clair.
Et plus de contrats aussi, enfin je veux dire, oui. Les gens du coup.
Après moi je travaille déjà aussi avec les États-Unis, ouais, j'ai un showroom là-bas, donc je travaille aussi pas mal avec d'artistes, donc j'ai déjà pas mal à faire. Mais c'est vrai qu'en France ça m'a permis d'avoir plus de contrats, faire plus de choses avec d'autres artistes aussi.
Oui, ça apporte une autre entre guillemets clientèle, j'imagine.
C'est ça, ouais. Ça agrandit juste en quelque sorte le portefeuille de clients, on va dire.
Ouais, trop bien.
Eh bien les amis, cette émission autour de la mode touche à sa fin. Et j'en suis désolé parce qu'on pourrait en parler
pendant toute la journée. Ouais.
Merci d'avoir été avec nous autour du micro. On va se quitter avec le traditionnel jeu des 12 points qui va nous permettre de choisir ensemble quel sera.
Traditionnel, moi c'est mon premier.
Oh,
c'est vrai.
Il y a de l'enjeu.
qui va nous permettre.
Est-ce que j'ai bien compris la consigne déjà ? Je suis pas sûre.
Moi j'ai rien compris.
Non mais c'est normal, personne comprend. Ils ont un jeu. Je sais pas, faut décrire une chanson, ça apporte ça. Et
après, tu surtout sur une émission spéciale mode.
Alors, nous allons avoir chacun, Agathe, Quentin et moi, 1 minute 30 pour vous décrire une prestation. Okay. Une prestation à l'issue de laquelle chacun va devoir donner 12 points. Et la chanson qui aura récupéré le plus de points clôturera l'émission. Quentin, est-ce que tu veux démarrer ?
Allons-y !
Allez, c'est parti !
Les amis, aujourd'hui nous partons pour Helsinki en Finlande pour l'Eurovision 2007. Je vous présente Andriy Danilko, performeur drag queen ukrainien plus connu sous le nom de Verka Serdyuchka. Il nous chante son tube Dancing Lasha Tumbai, subtile illusion auditive où le Lasha Tumbai se transforme en Russia Goodbye. Mais compte tenu du thème de notre épisode, mettons de côté la musique et les paroles, qui sont d'ailleurs incompréhensibles avec un gloubi-boulga linguistique d'ukrainien, d'anglais, d'allemand et de russe, concentrons-nous sur le style de Verka et de ses choristes. Pour la tenue, Verka imaginait une sorte de mash-up entre une boule disco, un sapin de Noël et un rouleau d'aluminium à balles. Le tout saupoudré de paillettes argentées. Côté choriste, même combat, avec une variante dorée côté paillettes. C'est complètement camp, assumé. Verka est une drag queen extraterrestre futuriste. C'est moche, mais beau à la fois. Bref, ça n'a pas loupé. Verka a remporté cette année-là le Barbara Dex Award et c'était bien mérité. Résultat des courses, Verka s'est classé à la 2e place du concours, mais il a aussi été victime du syndrome Amel-Bent. Même sans avoir gagné, Verka et sa chanson sont devenues des icônes de l'Eurovision, musicalement, mais encore surtout grâce à cette mise en scène et ce style vestimentaire marquant encore nos rétines. Bref, faites comme Jacques Chirac en faisant le W de la victoire. Mangez des pommes si vous le voulez, mais surtout, votez Verka.
Ah, bravo Quentin. Bon, j'adore quand il y a Jacques Chirac, je vais voter pour toi.
Maintenant, je vais mettre tout le temps Jacques Chirac.
Agathe ?
Non, je finis. Tu je suis comme ça, ouais, je suis une femme qui finit.
Ok. Ah bah c'est bon. Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, je vous emmène très loin, très très loin dans l'Eurovision, puisque nous allons partir en 1958, à savoir la troisième année du concours, et avec la prestation d'Allemagne. Pourquoi je vous parle de la prestation allemande de 1958, chantée par Margot Elscher ? Parce que, figurez-vous que c'est la première fois que sur la scène, d'un point de vue mode, on va avoir des accessoires et un peu une tenue what the fuck à l'Eurovision, là où, jusqu'à présent, on était vraiment dans des tenues très classiques, très stylisé, comme des grandes cérémonies en fait d'award de l'époque. Margot Eisler chante sa chanson Fürstweggottfindmusik. J'ai pas fait allemand.
Kanskut.
Et qui est ni plus ni moins que pour dessous, vive la musique ou une bonne musique pour dessous, oui, puisqu'en fait Margot est tout simplement habillée
une SDF
d'une banderole Miss Jukebox et elle vend en fait le fait qu'elle est Miss Jukebox avec des vinyles dans la main, une petite couronne sur la tête, et elle présente en fait ses CD en disant je peux vous mettre du Verdi, je peux vous mettre du machin, je peux vous mettre du Schlö, je peux vous mettre du bisou.
C'est une proposition originale.
On est dans... voilà,
fallait y penser.
Et elle a la particularité lors de sa prestation, c'est d'être d'interagir avec l'orchestre. Donc quand elle va présenter un CD, on va avoir une trompette, un xylophone, machin. C'est assez fabuleux et on a une robe qui est assez, que moi je trouve très magnifique, fuseau et qui finit évasée sur le bas.
Évasée,
vraiment très années 50. Bref, voilà, je vous invite à venir découvrir l'Allemagne qui cherche à se diversifier avec Margot Elscher et sa chanson Für zwei Groschen Musik.
Musik, ja. Dankeschön, Thomas.
De nata.
Vielen Dank.
De nata.
Alors, ich bin wieder da. Regarder les costumes de scène des artistes en fouillant les archives de l'Eurovision, c'est un petit peu comme ouvrir le placard de fringues de sa mère qu'elle n'a pas vidé depuis 30 ans. Mais comme vous le savez, la mode, c'est cyclique. Et il paraît qu'aujourd'hui, les ados adulent leurs parents qui ont grandi dans les années 80, tant leurs Levi's taille haute sont revenus à la mode. La mode, ça s'en va et ça revient. Oui, c'est fait de tout petit rien, j'assume. Mais alors, je voudrais savoir combien de temps exactement on devra attendre pour que le look du numéro 2 de l'année dernière revienne. Karija, c'est bien comme ça qu'on prononce ? Le Finlandais avec son cha-cha-cha gimmick qui est resté dans toutes les têtes. Mais il n'y a pas que la chanson qui est restée dans la tête, car Marétine est encore brûlée par le vert fluo de sa veste. Enfin, devrais-je dire son recouvreur de bras aux épaules oversize. Torse nu, le tissu vert fluo vient dessiner ses bras en trois gros boudins, qui nous rappellent un saucisson plutôt qu'un bras. Il n'en a pas moins oublié de mettre des gants. Oui, une chute est donc vite arrivée. Pour le bas, c'est sobre, un pantalon en cuir noir massif, des pompes style Doc Martens. Il arbore un râle-cou à picot, hommage au emo peut-être. Les boucles d'oreilles et les ears sont assorties au fluo de la veste. Le goût du détail, toujours. Les quatre danseurs et danseuses arrivent en rose, fluo aussi, fallait oser. Mais vous savez ce que j'aime, moi, là-dedans ? C'est la quintessence d'assumer du moche. C'est un tour de force. De s'assumer à ce point, c'est le rêve de tous. Et c'est peut-être ça qui les a hissés à la deuxième place. Il est évident que cette proposition de look folle, ringarde, hors du temps, fait pleinement partie de la mise en scène, si zinzin soit-elle, et que c'est pour ça qu'elle a marqué le public. Voilà comment on devient le chouchou. Be yourself. C'est l'image parfaite de l'Eurovision. Il n'y a pas de bonne surprise ? C'est vilain. C'est le goût du mauvais goût.
Merci Agathe.
Je vous en prie.
Eh bien écoutez, je nous laisse 10 secondes pour voter. Donc on va faire un tour de table et je vais vous demander chacun d'attribuer 12 points. Et on va commencer par toi Quentin, à qui tu attribues tes 12 points ?
Eh bien, je vais donner mes 12 points à toi Agathe.
Oh, merci.
Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Karja, c'est... c'est le bon goût du mauvais goût, c'est génial en fait, c'est ça aussi l'Eurovision. Et surtout, il a évité le côté ringard, c'est-à-dire que quand c'est mal fait, ça devient ringard, mais là je trouve que c'était tellement,
c'est
tellement poussé, que ça fonctionne. Et c'est ça qu'on aime à l'Eurovision.
Et je crois que la semaine de l'Eurovision, en Finlande, alors je sais pas si c'était Helsinki ou peu importe, ils avaient habillé des statues avec ce fameux truc.
Génial.
Donc à quel point la tenue devient le marqueur d'une prestation. C'est fou. Hein.
Ouais.
On aurait aimé qu'il y ait une statue qui ait la robe.
La Tour Eiffel.
Mais à mon avis, ça aurait coûté un peu plus cher.
Un petit peu.
Parce que finalement, des boudins fluo, c'est facile. Tout le monde peut y aller.
Romain, à qui t'attribues tes 12 points ?
Karja aussi.
Oh.
Parce que c'est le seul que j'ai vu et c'est le seul que. Et j'avais bien aimé aussi son style complètement décalé.
C'est
et
ça.
Il s'assumait, quoi. C'était bien.
Agathe, à qui tu attribues tes 12 points ?
À moi-même.
Même elle n'a pas compris le jeu.
À toi, Thomas, parce que tu m'as donné. Ouais. Bon, parce qu'en plus, moi j'aime bien. Tu m'as donné envie de voir le truc. Je le connais pas. Et ça m'a donné envie, tu vois. Je suis un peu. Tu m'as piqué, puis moi, tu me parles allemand. Déjà, il y a un petit truc en moi. Et, tu vois, ça bouge, quoi.
En revanche, Agathe, je note que tu as snobé Chirac.
Manger les pommes.
Mathieu, à qui tu donnes tes 12 points ?
Alors, vous avez tous été excellents et j'avoue que le truc des CD, ça me fascine un petit peu. Je vais quand même aller sur Verka parce que iconique, et sans Verka, il n'y aurait pas eu
beaucoup de choses
chose
par la suite.
Donc,
parce que là aussi, il est allé tellement loin, il a repoussé les limites et ça a ouvert la porte à d'autres prestations où ils ont poussé les portes.
Et moi, écoutez, bah, je vais clôturer ce jeu de 12 points et je vais donner mes 12 points à... Agathe.
Oui.
Bravo.
Parce qu'en fait, j'ai envie de terminer sur ce moment complètement what the fuck. On l'a très peu écouté dans le podcast, Caridia.
Ah, c'est juste pour ça ? Parce que t'as envie d'écouter tcha-tcha-tcha-tcha-tcha ?
Mais oui, mais parce que visuellement, voilà, tu vois, c'est ce que l'Eurovision propose. Verka Serduska, j'ai eu énormément de mal à accepter ce look-là parce que j'ai du mal à défendre l'Eurovision à travers son look. Parce qu'il est très...
Tu trouves que ça fait ringard, du
coup ? Ouais, je trouve qu'il vieillit mal. Enfin, il fait vraiment, tu vois, fait à la saucisse. Alors que Caridja, enfin, c'est beaucoup plus assumé, j'ai l'impression. Et ça permet aussi de montrer que dans la mode, on peut faire des choses qui bousculent un peu les codes et qui, justement, permettent derrière de travailler le style complètement différemment dans le prêt-à-porter.
C'est quand même complètement cohérent et la chanson et le look sont hyper cohérents.
Un peu techno-punk, ouais. Gothique.
Tu sais pas d'où ça sort.
Les danseurs du cha-cha-cha avec leurs dentiers.
La chenille, ils font une chenille à moitié. T'es là,
qui font The Human Centipede à la fin.
C'est très drôle.
Mais voilà, c'est tellement à fond que ça marche.
Eh bien, écoutez, les amis, merci énormément d'avoir participé à cet épisode de 12 points sur le podcast. Romain, où est-ce qu'on peut trouver tes looks aujourd'hui ? Où est-ce qu'on
chez Lazara,
s'acheter
on
des...
t'a dit
élégant
chez Lazara.
Bring back the gloves.
Où est-ce qu'on peut trouver mes looks ?
Ouais.
Bah, dans mon atelier et dans mon showroom aux États-Unis et sinon.
Ah bah ça tombe bien, j'ai les...
Et sur ton site internet, je sais que
oui,
tu.
Sur mon site internet, dis-moi.
Non, on peut acheter tes accessoires,
exactement.
Tes looks. Qui
exactement.
Sont
là, il n'est pas mis à jour encore parce qu'on travaillait tellement, mais bientôt il y aura vraiment toutes les nouveautés, la nouvelle collection qui
petite
arrive.
Petite stagiaire.
Voilà.
Et on vous rappelle que si vous voulez découvrir le style de Romain au-delà de Lazara, c'est aussi beaucoup sur Drag Race, en tout cas sur les prestations de show télé, Danse avec les stars, notamment Chris Marquez s'en donne à cœur joie en ce moment.
Exactement, j'ai du boulot en ce moment.
Mathieu, où est-ce qu'on peut te trouver ?
Eh bien, vous pouvez me trouver tous les jours sur le site duel.fr, mais vous pouvez également me regarder, parce que là, vous avez écouté ma voix, mais vous allez également voir à quoi je ressemble, sur TikTok et sur Instagram, @MathieuBobardelière. Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir apporté ton expertise.
Merci à vous
de la mode autour
de
cet épisode. Agathe et Quentin, ben, nous, on se retrouve dans le podcast très vite.
Mais oui.
Mais j'espère.
Voilà, tout simplement.
J'ai gagné mon rond de serviette. Oui,
Agathe.
C'est
bon. Et maintenant que t'as gagné le jeu des 12 points, c'est bon.
Oui.
Quant à nous, on vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner au club 12 points, www.12.podcast.com.
Vous pourrez voir toutes les vidéos qui font scandale. Non, mais j'emmerde les haters. Je l'ai bien vécu.
On vous retrouve très vite. À très bientôt.
À très vite.
Dans 12
merci
points.
Thomas.
Des bisous.
Et on se quitte avec Karja.
Et on se quitte avec Karja. Tcha tcha tcha.
Tcha
tcha tcha tcha tcha.
Mielenkiintona pinaa kun lada ja rata. Kita on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuota. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku. Mutana minä kolada on jo takana. Silti mun on vielä naamataulu vakava.
Yeah. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota. Parkettiin kutsuu mua kun en oo enää lukossa. Niinku cha 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 mä oon tulossa. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku. Cha cha cha, eikä pelkääkään tätä maailmaa. Niin kuin cha cha cha.
chacha, toi ne silmä jo kärsästään. Ja puhe sammalta, kun tää toinen puoli mus vallan saa. Cha-cha-cha, en oo arkena tää mies laisinkaan. En oo, kun tänään on se mies, tänään on se mies. Nyt lähden tanssimaan, niin kuin cha-cha-cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niin kuin cha-cha-cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Niin kuin cha-cha-cha.